The 30th anniversary CIUT Spring Membership Drive runs May 8th to 14th, but if you donate early, you'll be eligible to win one of 10 pairs of passes to Lulu World worth $250. Donate before May 8th, and you could be going to all scheduled performances, including Dennis Rollins and Alexis Barrow, Rachel Terrien, Cafe Cubano, Luis Samo, Aline Morales with Rob Curto, Candido, and the Ed Cherry Trio. Donate now at www.ciut.fm.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app, or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvé, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvé.
Avec ses milliers d'événements d'un bout à l'autre du pays, 2017 s'annonce exceptionnel.
J'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Un petit goût de miel, un petit goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Alors bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Êtres humains
ailleurs,
ni plus ni moins.
RSI,
RFI,
on en fait tout un.
Vous écoutez Popori Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popori Show, 30 ans déjà. toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Mesdames, Messieurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire où que vous soyez à travers la planète. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre des élections en France. C'est une édition spéciale présidentielle. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, au microphone, Eric Adair avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et d'ailleurs, vous êtes invités à participer, réagir à notre émission spéciale d'aujourd'hui. Et nous allons aussi, tout au long de l'année, célébrer les 150 ans d'histoire, un jour à la fois, au Canada. Et la phrase célèbre du deuxième tour, que signifie, d'après vous, poudre de perlimpinpin ? Poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron lors du deuxième débat. C'était cette semaine. Vous nous envoyez votre réponse à pot.pourri@sympatico.ca et aussi une invitation très spéciale aujourd'hui de la part de... Alors voilà, nous sommes de retour, un petit problème technique avec toutes les installations pour ce direct un peu spécial aujourd'hui. En ce dimanche 7 mai, au menu aujourd'hui, élection présidentielle 2017 en France, un moment historique, un rendez-vous à ne pas manquer. Nous nous rendrons au territoire d'outre-mer et les Français de l'étranger qui ont donné dès samedi hier le coup d'envoi du second tour de cette élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et selon nos sources, les électeurs dans la région de Toronto et de Montréal ne sont pas satisfaits de l'organisation de ce deuxième tour, malgré les belles promesses. Certains ont dû attendre plus de 3 heures pour voter. Et comment suivre les résultats et les analyses toute la journée, ce soir? Et d'ailleurs, je vous rappelle que si cela vous intéresse, nous avons reçu une invitation de notre partenaire Francine Watkins, conseillère consulaire et vice-présidente du Conseil consulaire Ontario et Manitoba. Ce sont les deux provinces du Canada. Les Français de Toronto et leurs amis seront réunis dès 13h aujourd'hui au Madison Pub pour écouter les résultats des présidentielles. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et mon édito d'aujourd'hui, nous allons essayer de dresser le bilan pour l'entre-deux-tours. Et cette campagne a été marquée, comme vous le savez, par des infos intox et des rumeurs, piratage massif hein, d'ailleurs, et coordonné de documents de la campagne d'Emmanuel Macron vendredi. Dans la soirée, l'équipe Macron a tout de suite dénoncé cette opération de déstabilisation. Et d'ailleurs, je vous avais promis la semaine dernière d'une petite bombe qui allait exploser avant le scrutin d'aujourd'hui. Et c'est fait, c'était vendredi. Et qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron, d'après vous, s'il l'emporte ce soir? La participation, je vous rappelle, de 17h, heure de Paris, était de 65,30%. Participation en forte baisse comparable au premier tour. Une élection ne réglera pas les problèmes éternels de la Guyane. Pourquoi la France a tant de retard avec ses départements d'outre-mer? On en fait le point avec nos confrères de France 24 et RFI qui recevaient Eric Worth, député des Républicains de l'Oise, conseiller politique et chargé du projet de François Fillon, et Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice, soutien de Benoît Hamon. Elle est aussi l'auteur de l'ouvrage « Nous habitons sur Terre » paru aux éditions Philippe Ray, c'était en février 2017. Et je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, tout le monde en suit de très près cette élection en France. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'une majorité de sondés disent regretter le résultat du référendum sur la sortie de l'Union européenne. Bien sûr, des sondés, là, ici, on parle des Anglais. Et le président russe Vladimir Poutine a enfin décidé de parler des droits des minorités sexuelles avec le procureur général et le ministre de l'Intérieur après la publication de témoignages supposés faisant état de la détention et de la torture d'homosexuels en Tchétchénie. Et dossier éducation en Ontario, 2 jours de lobbying à Queen's Park. Les clés ne sont pas jetées pour une université franco-ontarienne, mais le gouvernement de l'Ontario détient toujours cette clé. Et pourquoi de plus en plus d'élèves anglophones dans nos écoles françaises? Réagissez, nous attendons vos réactions à pot.pourri@sympatico.ca. Cinéma, une franco-ontarienne fait ses débuts au festival du documentaire Hot Docs et la réalisatrice Sophia Bodanswicks présente son 8e film, le documentaire Maison du Bonheur, et elle raconte l'histoire d'une astrologue de 77 ans dans son quotidien. Et bientôt à l'émission, l'actrice Monica Bellucci sera à notre émission. Elle participe, je vous rappelle, au festival de cinéma à Cannes. Donc à ne pas rater très prochainement. Pour nous joindre tout au long de l'émission, pot.pourri@sympatico.ca. Potpourri Show, 30 ans déjà.
Cœur de Saint-Pierre et Miquelon à l'extrême nord de l'Atlantique sont les premiers à avoir glissé le bulletin dans l'urne.
À voter.
Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui à midi.
À voter.
Un devoir que certains avaient hâte d'accomplir.
À voter.
C'est notre démocratie, c'est à nous de choisir, donc il faut venir voter.
Changement de latitude et de température. La Guyane s'est aussi lancée dans la course au bulletin de vote. Ici, les électeurs ont commencé à voter à 13h.
Premier votant.
Polynésie, Martinique, Guadeloupe. Le second tour de l'élection est lancé dans les dom-tom.
À voter.
Les Français de l'étranger, eux aussi, se pressent déjà vers les urnes. À Washington, les électeurs sont nombreux, malgré la pluie et les files d'attente.
Il faut toujours faire son devoir de citoyen, qu'il pleuve ou qu'il neige.
On a la possibilité de voter, il faut le faire.
C'est une élection qui n'est peut-être un petit peu inhabituelle, donc par rapport aux élections passées. Donc je pense que c'est effectivement important de participer et de faire entendre sa voix.
Certains Français de l'étranger devront s'armer de patience, comme ici à Montréal. Un seul bureau de vote et une longue, très longue file d'attente qui ne fait que commencer.
Il résonne mégaphone, assomme l'ego de l'homme. Ton silence s'amplifie comme un feedback qui rugit. « silence codifié qui dit tais-toi. Viens me chercher, arrête, va-t'en, ou même attends. Je subis la fréquence de l'amour en embargo, assourdi par la violence de ton silence. Radio. Silence d'indifférence qui dit j'en ai assez ou je m'en fous. Silence qui prononce la sentence de rien du tout. Se taire à tue-tête dans une rage de mots, une tempête de requêtes, c'est peut-être l'orage qu'il nous faut. Je subis la fréquence de l'amour en embargo, assourdi par la violence de ton silence.
Madame, Monsieur, bienvenue à Potpourri Show, l'édition spéciale présidentielle. Avant de parler des moments forts de cette campagne inédite, avant de parler plutôt de l'Université franco-ontarienne, ce gouvernement de l'Ontario qui demeure opaque, j'aimerais vous parler de cette élection présidentielle, les moments forts de cette campagne inédite. Le résultat final est proche. Ce soir, 20h heure de Paris, 14h à Toronto, les Français vont élire leur nouveau président, présidente de la République après une campagne inédite marquée par les primaires, mais aussi et surtout les affaires politico-judiciaires. Quel candidat, quelle candidate succédera à François Hollande à l'Élysée? Le 16 novembre 2016, après avoir fondé En Marche en avril et quitté ses fonctions de ministre de l'économie fin août, Emmanuel Macron annonçait son intention de briguer l'Élysée. Il dit, je cite, « Je suis candidat à la présidence de la République la décision de me présenter aux plus hautes fonctions ou charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde, déclarait l'ancien banquier d'affaires dans un centre de formation des apprentis de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Le 20 novembre, 4 jours plus tard, Nicolas Sarkozy était défait lors de la primaire de la droite et du centre au profit de son ancien Premier ministre François Fillon et d'Alain Juppé. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France, au revoir à tous, déclarait solennellement l'ancien président à son quartier général de campagne. Et la semaine qui suivait, le 27 novembre au soir, la primaire des Républicains mettait au rêve l'Élysée d'un autre cadre de la droite, Alain Juppé, largement battu par François Fillon, 66,5% contre 33,5%. Féliciter le grand gagnant de scrutin, je voudrais féliciter François Fillon pour sa large victoire. Je lui souhaite une très belle campagne présidentielle et une belle victoire en mai 2017, disait-il alors. Puis c'était au tour de François Hollande de renforcer ou de renoncer à briguer à la présidence. Surprise pour tout le monde, sûrement le moment clé de cette campagne présidentielle alors que de nombreux observateurs pensaient que le président allait défendre son bilan. Et pour la première fois de la Ve République, un chef d'État en exercice n'était pas candidat à sa propre succession. Quelques semaines plus tard, fin janvier, Manuel Valls a échoué à convaincre son camp de le choisir à l'issue de la belle alliance populaire. Et face à lui, Benoît Hamon a été choisi pour représenter le Parti socialiste dans la campagne présidentielle. La course à l'Élysée rentrait alors dans un nouveau rythme, ponctué par les affaires, essentiellement de François Fillon et de Marine Le Pen. Et si le candidat Les Républicains a payé cher les révélations successives, la présidente du Front National n'a jamais chuté dans les sondages, et ce jusqu'au premier tour de l'élection, qui n'a finalement retenu que la candidate du Front National et Emmanuel Macron. Pour la seconde fois dans l'histoire de la Ve République, le Front National s'est hissé au second tour de la présidentielle, et ce, 15 après le séisme politique de 2002, vous vous souvenez. Dimanche 7 mai, il n'en restera qu'un. Alors, on verra bien. Je vous rappelle encore une fois l'invitation de Francine Watkins, conseillère consulaire et vice-présidente du conseil consulaire de la province de l'Ontario et de Manitoba. Les Français de Toronto et leurs amis seront réunis dès 13h aujourd'hui au Madison Pub pour écouter les résultats des présidentielles. Vous êtes les bienvenus. Dossier universitaire, l'université franco-ontarienne. Le gouvernement demeure opaque au terme de 2 jours de rencontres avec de nombreux intervenants politiques, les représentants de plusieurs organismes francophones, y compris des étudiants. Ben, tout le monde reste sur leur faim. Et je cite, « Nous avons eu une bonne réception des libéraux, mais sans engagement formel au niveau de la ligne de temps. On aurait aimé en avoir. On s'est fait dire d'attendre le rapport du Conseil de planification à confier Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, à l'occasion d'une conférence de presse mercredi dernier. Je vous rappelle que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ainsi que le regroupement d'étudiants franco-ontariens et la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne espéraient au cours, au moins, que le gouvernement s'engage à faire l'annonce d'un projet d'université francophone avant la prochaine élection du mois de juin 2018. D'ailleurs, ça regarde mal pour Mme Wynne, la première ministre de l'Ontario. Tout le monde débarque tranquillement de son bateau, y compris il y a, je pense, un gros canon là, qui a débarqué cette semaine. Alors, on verra bien où qui sont les députés qui voudront bien se faire réélire avec le gouvernement de Mme Wynne au mois de juin 2018, l'année prochaine. Et les gens sont très confiants, les gens qui étaient présents à cette rencontre sont très confiants et ils parlent aussi, ils ont parlé de budget de démarrage réclamé d'une seule voix par de nombreux intervenants de la francophonie ontarienne. Mais personne n'a voulu s'avancer. Et depuis plusieurs mois d'ailleurs, le gouvernement de l'Ontario repousse une décision dans ce dossier. L'université franco-ontarienne affirmant d'abord vouloir consulter les conclusions du rapport du conseil de planification mené par Diane Adam. Et à l'occasion de leur rencontre, donc avec l'une des protagonistes, les acteurs francophones ont fait part de leurs attentes sur le contenu du dit rapport. Ils espèrent qu'il recommandera le déclenchement immédiat des premières étapes menant à la création d'un premier campus à Toronto avec un fonds de démarrage. Et d'ailleurs, parmi la communauté francophone, il n'y a pas tellement de... Enfin, les gens ne s'entendent pas. Alors, il y a beaucoup de divergences. Il y en a qui trouvent que pourquoi ne pas jumeler cette nouvelle université avec l'université de Hearst, de Sudbury, la Laurentienne, ou encore, que sais-je. Alors, il y a dissension dans la famille franco-ontarienne au sujet de cette université franco-ontarienne. Et si vous avez des réactions, nous attendons vos appels au 416-946-7000 ou encore pot.pourri@sympatico.ca. 150 ans. Canada.
In 5 years, I hope to have completed my bachelor's degree.
J'aimerais vraiment voyager le monde, découvrir qu'est-ce que j'aime.
J'espère que par ce temps-là, j'aurai trouvé un travail.
Je planifie d'aller dans la production de scène.
I have no idea where I'm going to be in 5 years.
J'aimerais faire de la science politique.
Une année en Inde.
Maybe engineer or sciences.
Still performing, I'm an actor.
In mathematics or computer science or singing.
For me, Canada is the best country in the world.
Canada is a very kind country is the word I would use.
Un pays qui est quand même très froid, donc on peut le dire.
We had a civil war back in Kenya when I was younger. This safe haven, whoa, free place.
Je pense qu'on est super chanceux d'être ici.
Une collection de toutes les différentes cultures. Ils se mélangent pas, mais ils s'assemblent, et c'est ça qui produit la beauté du Canada.
I can't think of anywhere I'd rather be, actually.
Our biggest challenge is to clean up Mother Nature.
With like global warming, socio-economical politics, it doesn't look very bright. We don't hear a lot of good news for the future. We're hearing that like 2050, there's going to be more plastic in the ocean than fish.
Pour nous autres, c'est vraiment la technologie.
That job might already have been taken over by something smarter, a computer.
Ma francophonie, moi, j'y tiens vraiment à cœur.
Les gens commencent à perdre le sens de la communication face à face.
Overfishing, populations of animals are just completely dying.
La technologie en médecine aussi est toujours en évolution, puis on sauve de plus en plus de vies, même s'il y a de plus en plus de maladies.
So then it comes up to us, you know, to change that future, to be innovative and to be like, to find solutions to these problems that have been caused. So on that front, I'm excited to see that happen. Hopefully it will happen.
30 years strong. Help keep the sound of your city alive with our spring membership drive, May 8th to the 14th. Go to ciut.fm to donate early or find out how you can get involved.
On Thursday, May 25th, CIUT presents David Barsamian in support of our 30th anniversary. Come see radio broadcaster, writer, and founder and director of Alternative Radio speak from 7 to 8:30 p.m. with doors opening at 6:30 in the East Common Room at Hart House. Tickets are $15. Visit www.ciut.fm or eventbrite.com for tickets and more information.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Employeur, employé, connaissez-vous vos droits? Droit du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche. Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître à la marche en direct à l'antenne. Édition spéciale présidentielle 2017 en direct. Est-ce que notre démocratie est en danger? Et si la cyberattaque était devenue la nouvelle arme de nos ennemis? Et connaissez-vous la signification de cette phrase devenue hélas célèbre lors du débat du deuxième tour? Poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron. Poudre de perlimpinpin. Vous envoyez votre réponse. C'est un petit jeu, bien sûr. Petit concours au pot.pourri@simpatico.ca. Édition spéciale présidentielle sur CUT 89,5 FM de 11h à 13h. Et oui, de nombreux documents internes de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron ont été diffusés sur les réseaux sociaux dans la soirée de vendredi. Un piratage massif qui ne sera pas laissé sans réponse, selon le président français François Hollande. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a dénoncé cette action de piratage massive et coordonnée après la diffusion dans la soirée sur les réseaux sociaux d'informations internes juste avant la fin de la campagne officielle. Et on savait qu'il y aurait ces risques durant la campagne présidentielle puisque c'était produit ailleurs, comme aux États-Unis, a réagi le président français en marge d'une visite à l'Institut du Monde Arabe à Paris, où on se souvient, on l'a vu sortir d'un restaurant avec le roi du Maroc. Et d'après vous, qui a publié ces documents? Eh bien, ces documents obtenus frauduleusement ont été publiés anonymement sur un sous-forum d'extrême droite de la plateforme 4chan, 4chan, si vous préférez Wikileaks, s'en est fait très rapidement l'écho, tout en s'interrogeant sur leur authenticité. Et l'extrême droite américaine à Wikileaks, l'incroyable parcours des Macron-leaks, eh oui, c'est déjà sur un forum de 4chan qui avait été lancé le soir du débat de l'entre-deux-tours. La rumeur, reprise d'ailleurs par Marine Le Pen, selon laquelle Emmanuel Macron disposait d'un compte offshore aux Bahamas. Et oui, très vite, plusieurs comptes Twitter américains pro-Trump ont relayé ce leak avec le mot-clé hashtag MacronLeaks. Ce piratage porte sur plusieurs gigs de documents internes, correspondances, documents comptables, contrats, issus essentiellement des boîtes e-mail de militants ou cadres d'En Marche. Ils traduisent le fonctionnement normal d'une campagne présidentielle selon un communiqué du mouvement diffusé dans la nuit de vendredi à samedi. La commission de contrôle de la campagne électorale qui s'est réunie samedi matin pour faire le point sur les suites de cette attaque informatique appelle les médias et les citoyens à ne pas en relayer le contenu. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un blackout total en France 48 heures avant les élections. Et je ne pense pas que nos amis de la région de Bretagne ou encore à Toulouse ont eu vent de ce piratage. Les territoires d'outre-mer et les Français de l'étranger donnent dès samedi, ils ont donné dès samedi le coup d'envoi du second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Beaucoup, beaucoup d'électeurs, d'électrices français n'ont vraiment pas été enchantés hein, pour la deuxième fois. Et le fil d'attente, je pense, était trop long. Et certains ont même attendu plus de 3 heures pour passer à l'isoloir. Et rapidement, la crise en Guyane est-elle légitime? Selon moi, la réponse est oui, à 100%. Quand on a un mouvement aussi spectaculaire soutenu par la population, les syndicats, les élus, même de gauche et une grande partie du patronat, c'est bien sûr légitime. Et si la région est d'accord, il faut comprendre qu'il y a une très grande insécurité dans ces régions, pas seulement en Guyane, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, on l'a vu, à l'île de la Réunion, île que je connais très bien, un taux d'homicide 4 fois supérieur des fois à celui de la ville de Marseille. Donc, on note que la crise guyanaise est pour beaucoup liée à l'immigration clandestine, à la drogue, à un niveau de vie inférieur de moitié par rapport à celui de la France, sans compter qu'en Guyane, les chiffres du chômage représentent le double de ceux en France et que 40% sortent du système scolaire sans diplôme. Eh oui, c'est très triste tout ça. Tout le monde savait qu'il y avait des tensions et que ces tensions grondaient depuis longtemps, notamment face à un gouvernement qui a mis du temps à réagir, le gouvernement français. Et personnellement, je ne comprends pas cette politique de la France qui impose à ses départements d'outre-mer des fonctionnaires français bien payés, grassement payés bien souvent. Comment voulez-vous régler le problème du chômage et le respect du caractère distinct de ces peuples sans leur donner une formation professionnelle et une certaine autonomie culturelle? Tant qu'il n'y aura pas de vrai dialogue entre la France et ses anciennes colonies, la France est condamnée à faire face à des crises et des conflits sans fin, je vous le dis. Et oui, une élection ne réglera pas les problèmes éternels de la Guyane ou Guadeloupe et les autres départements. Pourquoi la France a tant de retard avec ses départements d'outre-mer? On en fait le point avec nos confrères de France 24 et RFI qui recevaient Eric Worth et la garde des Sceaux, l'ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice, Christiane Taubira. Ils étaient au micro de RFI et de France 24.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Je salue notre deuxième invitée, elle fut garde des Sceaux, c'est elle qui s'est battue et qui a fait voter le mariage pour tous. Elle a quitté le gouvernement Valls sur un désaccord majeur, la déchéance de nationalité. Elle a repris son vélo et soutient aujourd'hui Benoît Hamon, le candidat socialiste. Bonsoir Christiane Taubira.
Bonsoir madame.
Et merci d'être là avec nous sur ce plateau. Alors, Christiane Taubira, vous avez été députée de Guyane de 93 à 2002. Vous y êtes née. Ce département d'outre-mer vit une crise majeure, manifestation, barrage, blocage. François Hollande vient d'envoyer une lettre aux élus du département pour réclamer la fin des barrages. Réclamez-vous la même chose ?
Non, je n'ai pas à réclamer la fin des barrages. Ce mouvement a une direction, des collectifs qui sont constitués en délégation pour discuter avec les représentants de l'État. Je n'ai pas à m'immiscer dans l'appréciation des choses. Évidemment, j'ai mal au cœur pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Je suis préoccupée pour les élèves de terminale qui auront certainement quelques difficultés pour le baccalauréat. Je m'interroge évidemment sur les étudiants, mais c'est le lot de tout mouvement social. Et j'estime que c'est à eux qu'il revient d'apprécier les choses. J'espère que cela se fait de façon suffisamment démocratique pour qu'ils soient en mesure de décider si, par rapport à ce qu'ils ont obtenu, il y a lieu de mettre un terme à ce mouvement.
Ils demandent plus. Alors, le fond du problème, pour qu'on comprenne un peu et connaître votre analyse, le fond du problème, c'est quand même le sous-développement, un manque d'investissement de l'État. L'État ne suit pas. Pourquoi l'économie locale ne décolle pas, les salaires et les coûts sont beaucoup trop chers? Pourquoi il n'y a pas de capitalisme local? C'est le problème de la Guyane aujourd'hui. Et la vie est très chère.
Alors,
Comment tuer ce cercle? Il
y a des responsabilités qui incombent au pouvoir public, que ce soit l'État central, mais aussi les autorités collectives, territoriales. Nous avons une seule collectivité territoriale actuellement. Donc il y a de toute façon un sous-équipement général. Il y a une insuffisance des services publics en matière d'éducation, en matière de de santé. Donc, il y a effectivement des efforts considérables à faire, pas simplement au fil de l'eau. Il y a donc des responsabilités multiples, y compris sur la diversité des activités économiques, sur l'enclavement du territoire, donc des ruptures d'égalité entre certaines villes et certaines communes rurales. Donc il y a toute une série de problèmes qui nourrissent les difficultés quotidiennes pour les gens. Il y a une insuffisante prise en charge de la jeunesse, qui est importante en nombre, qui est vive, donc capable d'être formée, d'être éduquée, d'inventer, donc d'avoir un avenir, et qui pourtant est frappée, cette jeunesse, d'un chômage à 50%, c'est-à-dire qu'un jeune sur deux, non seulement n'est pas sûr de trouver un emploi, mais absolument sûr de ne pas en trouver. Donc c'est une situation absolument explosive, et ça explique cette mobilisation très forte et très belle, en fait, à savoir que les gens savent qu'ils se battent pour l'avenir et qu'ils revendiquent des choses qui sont tout à fait justes. Or, derrière ça s'entrecroisent aussi des intérêts économiques particuliers, des calculs politiques aussi, mais tout ça c'est secondaire, ça ne doit pas servir de diversion. L'essentiel, c'est vraiment cette mobilisation générale, parce que les gens savent que en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'accès aux droits, en matière de liberté de circulation, de mobilité sur le territoire, ils ont le droit effectivement de revendiquer une mise à niveau.
Puisque vous connaissez très bien la Guyane, Christiane Taubira, est-ce que vous pourriez vous engager pour tenter de dénouer ce conflit ? Est-ce que vous pourriez être médiatrice si par exemple François Hollande vous le demandait ?
Alors, je n'envisage jamais de m'imposer dans une situation,
non, mais
bien
je
entendu.
Lance l'idée, si
j'étais sur place, j'étais sur place durant la première semaine. Je me suis moi-même déplacée d'ailleurs sur plusieurs barrages, j'ai rencontré les gens, je leur ai parlé. Maintenant, il y a un collectif qui dirige ce mouvement, alors un collectif composite, parce que c'est quand même un mouvement assez étonnant en soi, même si ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ça. En 1992 aussi, nous avions un mouvement avec un collectif dirigeant qui était composé à la fois de travailleurs, mais des patrons, des chefs d'entreprise qui mettaient leur logistique à disposition pour les barrages, des personnels de collectivités. Donc il y a forcément des contradictions. C'est pour ça qu'il y a des périodes de tension. Il y a des contradictions parce qu'il y a des intérêts divergents. Donc sur les services publics, évidemment, tout le monde peut se retrouver, mais puisqu'il y a des revendications catégorielles, c'est plus compliqué. Maintenant, lorsqu'il y a nécessité d'un médiateur, c'est aux deux parties de concevoir et de choisir et de définir un médiateur. Donc de vouloir déjà une médiation.
Le collectif des 500 frères, qu'on a beaucoup vu, puisqu'ils frappent les esprits avec leur tenue noire et leur cagoule, dénonce l'insécurité, la délinquance, et établit un lien de cause à effet entre ces problèmes et l'immigration venue en particulier du Suriname et du Brésil. Est-ce que vous êtes d'accord avec le collectif sur ce point ?
Non, le lien est une erreur. L'insécurité est réelle. Elle est réelle. Une cinquantaine d'homicides en Guyane, 250 000 habitants, c'est pratiquement un homicide par semaine. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Il y a une violence gratuite. Il y a la preuve là d'une déshérence. Il y a vraiment des attitudes de violence gratuite, extrême, une circulation d'armes, un sentiment de vulnérabilité collective qui n'est pas juste un sentiment, qui s'appuie sur une réalité de crimes, d'homicides qui sont ainsi fréquents. Maintenant, le lien avec l'immigration est une erreur. D'abord parce que la Guyane est en Amérique du Sud, que c'est un lieu de circulation humaine, cela est historique, que nous sommes séparés de nos pays voisins, le Brésil et le Suriname, par des centaines de kilomètres de fleuves, des centaines en longueur, mais des fleuves avec la largeur de fleuves. Donc ce sont des lieux de circulation, et il nous faut penser notre présence dans le bassin sud-américain avec la prise en charge de nos territoires. Il y a quand même 9 pays qui se partagent l'Amazonie, donc 8 en plus de la Guyane. Nous avons des eaux territoriale commune. Nous avons un océan que nous partageons avec le Brésil, le Suriname, le Guyana et même le Venezuela. Donc il faut penser notre lieu et notre capacité à vivre dans ce lieu. Donc il y a effectivement une réalité de circulation de personnes qui viennent aussi de la Caraïbe, mais il y a aussi des personnes qui viennent de la Syrie. Donc il y a une réalité de migration en Guyane, et ça c'est historique. Il y a évidemment des pressions très fortes, donc qui sont visibles et qui sont difficiles à supporter. Il y a de la délinquance chez des immigrés, mais on ne peut pas faire l'équation criminalité-immigration.
Christiane Taubira, on va parler de politique, puisque ça vous intéresse aussi
au plus haut point.
Donc, vous soutenez Benoît Hamon, donc le candidat socialiste, qui est à 9 points, voire 10 points dans les sondages. D'abord, Edune, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous êtes déçu par l'homme et sa campagne, ou
non,
les deux bons capitaines?
Je ne suis absolument pas déçu par l'homme et sa campagne, parce que Benoît Hamon fait une belle campagne. Il fait une belle campagne sur une vision de la société, sur une compréhension de l'Union européenne et de son utilité, et surtout, en plus, de l'ardeur qu'il faut lui insuffler, sur une compréhension, une perception de l'état du monde et des grands bouleversements. Donc il a compris les bouleversements économiques, il a compris le défaut d'anticipation sur des dizaines d'années, sur les mutations économiques qui sont en cours et leurs effets parfois désastreux sur les personnes qui travaillent dans des filières économiques qui sont devenues obsolètes et qui n'ont pas été convertis à temps. Il a compris l'émergence des nouvelles économies, donc l'économie numérique, l'économie collaborative, l'économie circulaire. Mmh. Il a compris tout ça et il ose dire que ces mutations-là vont se poursuivre, elles vont s'approfondir. Il faut les neutraliser quand c'est nécessaire. Il faut les accompagner quand il faut. Il faut saisir les nouvelles précarités et concevoir.
Alors il a compris, mais il n'est pas compris.
De nouvelles solidarités. Il explique.
Il a compris, mais il n'est pas compris. Si on voit les sondages.
Je ne dirais pas les choses ainsi, mais oui. Bon, en tout cas, non, mais cette campagne, elle est
folle.
Oui.
Et elle n'est pas finie.
En tout cas, elle désoriente. Elle désoriente. D'abord, elle a été terriblement polluée parce que la campagne a été beaucoup plus judiciaire que politique pendant longtemps. Il est difficile de faire percer les idées, de montrer la cohérence d'un projet. Donc, il fait une campagne. Il l'a fait avec beaucoup de courage. Il affronte la difficulté de d'être obligé de répondre tous les jours à des sondages, alors que moi, je crois beaucoup plus au suffrage universel. Et je rencontre les militants. Je vais sur le terrain. Je vais convaincre des personnes qui s'interrogent parce que je crois que c'est
vous
comme ça qu'on fait une campagne.
Parmi les explications des difficultés de sa campagne, Benoît Hamon a évoqué hier matin le bilan du quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous seriez solidaire de ce reproche?
Non, je ne pense pas que ce soit juste, parce que c'est une législature pendant laquelle un certain nombre de choses ont été faites, importantes. Des choses ont été faites qui n'étaient pas prévues et qui nous ont nous-mêmes un peu surpris. Des choses ont été faites un peu à moitié. Des choses qui n'étaient pas à faire ont été envisagées à faire. Donc il y a des critiques à porter, comme sur toute législature.
Mais il a tort d'incriminer le bilan de François Hollande comme responsable de ces difficultés.
En matière d'éducation, par exemple, les engagements du président ont été tenus. Ils ont été vraiment tenus. Le rétablissement de la formation des enseignants, la refondation de l'école, l'importance de l'enseignement primaire, la charte de la laïcité, mais surtout le recrutement de plus de 60 000 enseignants. Donc les engagements du président ont été tenus. En matière de santé, le tiers payant généralisé, en matière de solidarité, la retraite à 60 ans pour les longues carrières, en matière d'accès aux droits, nous avons maillé la totalité du territoire. Donc il y a des tas de choses, de lutte contre la pauvreté, c'est insuffisant, mais des actions ont été engagées pour la cohésion sociale. Donc il y a, ce quinquennat n'est pas à jeter, heureusement, et au contraire, il faut rappeler ce qui a été fait de façon à ce que les citoyens les aient en tête et ne laissent pas reprendre des conquêtes sociales.
Alors, si d'aventure, Benoît Hamon n'était pas présent au second tour, que c'était Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous appelleriez au moment du second tour, est-ce que vous soutiendriez Mélenchon?
Je suis juste désolée de vous contrarier, parce qu'en plus vous êtes profondément sympathique et extrêmement professionnel.
Merci.
Mais je refuse de raisonner de cette façon. Je fais la campagne jusqu'au dernier jour.
Je comprends.
Et je continuerai à la faire jusqu'au dernier jour.
Mais lui-même a répondu à cette question.
Et c'est son affaire.
Mais il a répondu.
C'est
le candidat. Lui, il a dit, si jamais je n'y suis pas, je voterai Mélenchon.
Mais oui, et moi, je vous maintiens que je
voterai Mélenchon. Non, mais j'entends bien.
Marine Le Pen, qui n'a pas l'habitude de dérapage, comme son père l'avait, elle a pourtant déclenché une polémique en déclarant ceci. On l'écoute.
France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France.
Alors dans le fond, elle prend l'argument de Gaulle, qui disait que c'était Vichy et que Vichy n'est pas la France. Mais Jacques Chirac, en 95, impose la vérité historique sur les valeurs, sur la morale. Ce jour-là, la France a commis l'irréparable, avait-il dit en 95, donc sur la rafle du Veldiv. Comment regardez-vous cette réponse de Marine Le Pen? Est-ce qu'on lui fait un mauvais procès ou c'est un dérapage?
En tout cas, je ne confonds pas Madame Le Pen avec M. de Gaulle ni avec M. Chirac, d'une part. D'autre part, donc pour moi, c'est une parole d'une autre nature. Mais en plus, c'est une parole intéressante parce qu'elle rappelle effectivement que les forces de la police d'État, parce qu'à l'époque quand même, à l'époque, il y a des lois racistes, il y a des lois anti-juives, il y a allégeance au chef de l'État et non pas à la République. Il y a obligation pour les fonctionnaires d'aller à la messe. Il y a donc toute une série d'exceptions à l'état de droit. Et il faut rappeler que la police qui est contrainte à être une police d'État et non pas à être une police républicaine, qui va exécuter les ordres de rafle du Veldiv, a eu des supplétifs. Et parmi ces supplétifs, il y avait les gros bras du Parti populaire français. Et ces gros bras du Parti populaire français appartenaient donc à un parti dont le secrétaire général a été quelques années après numéro 2 du Front National. Donc effectivement, la parole de Mme Le Pen est intéressante parce qu'elle rappelle quand même qu'à cette époque-là, il y a effectivement un pouvoir d'État qui n'est pas un pouvoir républicain, qu'il y a effectivement une résistance avec des femmes, des hommes, y compris des femmes et des hommes venus d'ailleurs, je pense aux républicains espagnols par exemple, aux exilés, donc des femmes, des hommes, des Français, de gauche, de droite aussi, du centre forcément, et puis même quelques-uns nationalistes qui sont pris par une fibre patriotique plus que nationaliste à ce moment-là. Mais il y a effectivement cette extrême droite collaborationniste. Il y a effectivement cette extrême droite qui participe, notamment ses membres du Parti populaire français, à la rafle du Veldiv aux côtés. Ce sont des éléments établis par des historiens. Donc moi, je trouve que de ce point de vue, cette parole est tout à fait intéressante parce que moi, je ne l'apprécie pas parce que je ne tiens pas Mme Le Pen comme une personne qui a fait allégeance à la République. Je crois qu'il y a une instrumentalisation de la République, comme il y a une instrumentalisation chez elle de la laïcité. Mais je pense que justement, le fond de ce parti, sa nature profonde, surgit en certaines circonstances. Et moi, je me réjouis qu'elle rappelle justement que l'extrême droite était là, dans cette place-là, et non pas dans la résistance, à quelques exceptions près.
Est-ce que la question, ça n'est pas aussi de savoir ce qu'on entend par ce terme « la France » quand on parle de la responsabilité dans le Veldiv? Qu'est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est l'ensemble des Français qui constituent la France? Et au fond, donc, est-ce qu'aujourd'hui, chaque Français doit se sentir une part de responsabilité historique dans ces événements tragiques, un peu à la manière de la notion du péché originel en religion?
Non, la question n'est pas de culpabiliser chaque Français. La question est d'avoir le courage de faire face aux événements qui ont contribué à façonner la communauté nationale. Donc à ce moment-là, oui, il y a des décisions qui sont prises et qui sont absolument monstrueuses. Mais c'est notre histoire, nous devons la porter. Nous devons la porter avec lucidité et courage. Et non pas avec ces petits arrangements, avec ces petits arrangements avec l'histoire, avec ces petites polémiques calculées pour la campagne électorale. Non, nous devons assumer. Nous devons assumer toute l'histoire. Parce que cette histoire, elle forge notre identité. Elle forge surtout notre cohésion. Donc il ne s'agit pas de dire à chaque Français qu'il doit avoir honte. Les résistants portent cette histoire aussi. Ils portent l'histoire de la résistance. Ils portent l'histoire de leur courage personnel. Mais ils portent l'histoire de la France. Donc la question, c'est ce gouvernement, je viens de dire que ce n'était pas un État républicain, c'était un pouvoir d'État, qui avait quand même obtenu les pleins pouvoirs, pas pour faire que ça d'ailleurs, il avait obtenu les pleins pouvoirs pour élaborer une constitution, ce qu'il n'a pas fait. Mais voilà, c'est un pouvoir d'État, c'est la réalité de la France. Et il vaut mieux l'affronter, parce que c'est ça qui nous rend plus forts.
Et quand Macron va en Algérie, il parle de crimes contre l'humanité sur la colonisation, est-ce que là, l'instrumentalisation de l'histoire et de la politique fait quand même bon ménage? Est-ce que c'est le moment de ressortir toutes ces choses-là, ou c'est par pur électoralisme? Notamment peut-être Macron, est-ce que c'était une manière d'avoir de son côté un vote d'une communauté, on va dire?
En tout cas, c'est d'autant plus étonnant qu'il le dit en tant que candidat à l'élection présidentielle, il ne dit pas ce qu'il ferait s'il était élu. Donc porter une notion aussi lourde, c'est une notion absolue de crime contre l'humanité.
Sinon, on met la France devant la Cour pénale internationale.
Ou on dit, je soumettrai au Parlement un projet de loi pour reconnaître ce crime contre l'humanité, parce que le crime contre l'humanité est imprescriptible. C'est inscrit dans notre droit pénal, c'est inscrit également dans le droit juridique international. Donc cette parole aurait un sens si en prolongement de cette parole, il disait, moi, candidat, si je suis élu président, voilà ce que je ferai. Ensuite, la notion de crime contre l'humanité est une notion absolue. Donc, quand le lendemain matin, il se précipite pour expliquer aux pieds noirs qu'il les aime et que, finalement, il introduit des nuances, voilà, on est un peu perplexe face à une telle déclaration.
Pour en revenir un instant au Front National, vous avez qualifié le vote Front National chez les jeunes de déviance. Est-ce que ça n'est pas un peu curieux quand on sait à quel point vous attachez de l'importance aux mots, que vous ayez employé ce terme-là quand on sait qu'il était utilisé par certains à une époque et sans doute encore parfois aujourd'hui pour parler des homosexuels, pour parler de l'homosexualité?
Non, mais c'est pas parce qu'on a insulté les homosexuels de déviance que le mot déviance ne prend plus de sens.
Oui, mais vous savez très bien ce que veut dire déviance, c'est qui quitte la voie, qui sort de la route qui est tracée pour lui.
J'ai expliqué avant de dire que pour moi c'était une déviance, j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit qu'en général, la jeunesse, c'est un âge où on est très ouvert sur les autres, où on pense qu'on va transformer le monde sans même tenir compte de ses inerties, de ses pesanteurs, des différents intérêts. Que la jeunesse, c'est ça. Et qu'en plus, à notre époque, la jeunesse est ouverte sur le monde parce qu'elle vit en présence du monde et avec la conscience de cette présence du monde. Et que moi, les jeunes que je fréquente, en général, sont des gens qui ont ces élans-là. Et que les jeunes qui arrivent à se laisser embrigader par un parti qui professe le repli sur soi, le rejet des autres, qui n'offre aucune solution à aucun problème, mais toujours systématiquement un bouc émissaire, je dis que lorsque les jeunes se laissent embrigader par ce parti-là, oui, c'est une déviance pour moi par rapport à la vision que j'ai de la jeunesse. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est une pathologie. Je ne suis pas en train de reconvertir un terme qui a été utilisé comme une injure, comme une insulte. Je dis que voilà, les tendances lourdes de la jeunesse, c'est ça. Il y a toujours eu des minorités de jeunes très réactionnaires, très conservatrices, qui d'ailleurs souvent sont sous l'influence d'une famille ou d'une proximité quelconque, mais généralement c'est marginal. Donc, alors que la question qui m'a été posée par cet étudiant, c'était comment vous expliquer que la majorité des jeunes qui s'engagent s'engage au Front National.
Merci Christiane Taubira, c'est la fin de cette émission et Mardi Politique revient
merci
mardi prochain.
Merci Christiane Taubira et merci à vous.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Il renonce à la région PACA et il renoue avec la chanson. Retrouvez Jean-Marie Le Pen dans la compile des grands succès de Claude Francisque.
J'ai besoin qu'on m'aime et personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal.
Édition spéciale à présidentielle, Jean-Marie Le Pen chante ses plus grands succès. Cette élection présidentielle hors norme livrera ce soir à 20h heure de Paris le verdict final, mais ouvre une ère d'incertitude. Quel que soit le verdict, les urnes de ce dimanche soir, les prochaines semaines et les prochains mois s'annoncent lourds d'incertitudes. Et si Emmanuel Macron reste le favori des sondages, l'écart avec Marine Le Pen pourrait bien être déterminant pour la suite. Notre quatrième scénario prévoit aussi tout de même une petite victoire de la candidate frontiste. Que se passerait-il alors ? Et je vous rappelle que Mediapart a révélé cette semaine que l'eurodéputé Jean-Marie Le Pen, le papa de Marine Le Pen, a utilisé une partie des fonds alloués à sa communication pour se faire livrer une centaine de bouteilles de Grand Cru dans son manoir de Saint-Cloud. Coût de l'opération, plus de 8 500 euros. Eh oui. Alors, je vous rappelle encore une fois que vous entendez en ce moment Jean-Marie Le Pen qui chante ses plus grands succès.
Cette année-là, j'ai vu Pétain pour la première fois. car avant je ne le connaissais pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, la milice sentait pousser ses ailes et les nazis chantaient tous Heil, Heil, Heil. Et le public aimait ça. Déjà, les collabos étaient de beaux garçons dans le vent et tous. Chantait maréchal, nous voilà. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Le maréchal se sentait moins seul. Plus j'y pense et moins j'oublie. C'était l'année 42. C'était l'année 42.
Jean-Marie Le Pen chante Claude Francisque, inclus le tube qui a fait fureur, la Gégène extraordinaire.
J'étais un jeune para, plein de vie et de joie.
Et oui, Jean-Marie Le Pen qui nous interprète ses plus grands succès. On verra bien ce soir qui sera la gagnante ou le gagnant de ce deuxième tour élection présidentielle. On voit actuellement plusieurs allées-et-vient qui se déroulent surtout au quartier général de Emmanuel Macron à Paris. Très calme quand même dans le quartier général de Marine Le Pen pour l'instant, mais plusieurs personnalités et plusieurs individus là que je vois qui entrent au quartier général. Sans doute les préparatifs chez Emmanuel Macron vont bon train, et tout à l'heure nous serons en direct avec nos médias partenaires en direct à Paris pour vous donner un peu le feu de l'action juste avant l'annonce du résultat, c'est-à-dire 20h, heure de Paris. Et ici, notre amie et collaboratrice Francine Watkins, conseillère consulaire et vice-présidente du conseil consulaire de la province de l'Ontario et du Manitoba, vous invite à participer au résultat, à écouter les résultats, regarder les résultats des présidentielles au Madison Pub, 14 rue Madison, Madison Avenue, au coin de Bloor et Spadina.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you early North American country music and bluegrass on Radio Boogie with Steve Pritchard, Wednesday afternoons at 3.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
What's that? Did you say CIUT is celebrating 30 years on the FM dial? We're still here. You can help the station celebrate 30 more by getting in on our membership drive, on from May 8th to the 14th. Donate online at www.ciut.fm. Celebrate CIUT's 30th anniversary with us during our spring membership drive. We wouldn't be here without your support. So from May 8th to the 14th, join us and become part of CIUT history. Donate online at www.ciut.fm.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, des dizaines de lycéens de Chibok enfin libres au Nigeria. Après plus de 3 ans de captivité aux mains de Boko Haram, au moins 80 d'entre elles viennent d'être libérées. De sources militaires, elles sont attendues ce dimanche à Maiduguri, capitale de l'état du Borno. Ces jeunes femmes ont été relâchées au terme de longues négociations et en échange de membres du groupe islamiste détenu par les autorités nigérianes. En 2014, l'enlèvement de 276 adolescentes avait provoqué une vague d'indignation dans le monde. Plusieurs dizaines d'entre elles ont été progressivement libérées depuis. En France, qui pour succéder à François Hollande, réponse ce soir à l'issue du second tour de la présidentielle, face à face Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est le jour J en métropole, alors que le vote a commencé dans certains départements et territoires d'outre-mer et pour certains Français de l'étranger, ceux vivant sur le continent américain. En France métropolitaine, les 67 000 bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 19h ou à 20h dans certaines grandes villes. Le scrutin se déroule au beau milieu d'un pont de 3 jours. Ce qui pourrait faire baisser le taux de participation. Comme lors du premier tour, plus de 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, en plus des 7 000 militaires de l'opération Sentinelle. La menace terroriste reste bien présente en France. L'homme arrêté vendredi près d'une base aérienne a reconnu devant les policiers avoir envisagé de commettre un attentat au nom du groupe État islamique. Cet ancien militaire français, âgé d'une trentaine d'années, a été interpellé en tenue militaire près de la base d'Evreux, au nord de Paris. Il portait les insignes du groupe EI à la place des galons et des armes ont été retrouvées à proximité. Un nouveau chef pour le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, Ismaël Haniyeh, élu hier à la tête du bureau politique du Hamas, succède à Khaled Meshal. Ismaël Haniyeh, 54 ans, a été premier ministre palestinien. Il est issu de l'aile pragmatique du Hamas qui a dit oui récemment à un État palestinien limité aux frontières de 1967. Les opérations de secours se poursuivent en Méditerranée. En 2 jours, vendredi et samedi, quelques 6000 migrants ont été secourus lors d'une quarantaine d'opérations coordonnées depuis Rome par les gardes-côtes italiens. Une partie de ces migrants a déjà été débarquée, tandis que d'autres sont en route. Plusieurs centaines sont à bord de l'Aquarius, le navire de Médecins sans frontières, attendu ce dimanche sur les côtes italiennes. Enfin, l'AS Monaco a fait un pas de plus vers le titre de champion de France de football. Facile vainqueur à Nancy, 3-0. Les Monégasques ont 3 points d'avance sur le PSG à 2 journées de la fin et ils comptent un match de plus à jouer. De son côté, le Paris et Saint-Germain a écrasé Bastia 5-0.
RFI, la radio mondiale. De Bobigny à Conakry, de Levallois à Tirana, de Pantin à Pékin, la Kora flirte avec le synthé, le Bangra épouse le reggae, les pygmées de gré ou de force se mettent à la techno et rien n'échappe à la radio mondiale. RFI, aux quatre coins du monde, à chaque heure du jour ou de la nuit, des succès d'hier au rythme d'aujourd'hui, chacun sa route, chacun son chemin.
C'est la ville des amoureux.
Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emploie tout plein de mots que je connais pas, roule en Vespa. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Alix, Fix et Lisange. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange. Elle me dit tout le temps qu'il faut qu'on se capte et qu'on brunch ensemble un de ces quatre. Qu'on se mate une expo au 104, Larry Clark. Pourquoi pas? Mais pas demain, car madame est surbookée, toujours bloquée sur son MacBookée. Et quand elle me dit qu'on peut se croiser sur Facebook, c'est le bouquet.
Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change.
Elle habite Paris, c'est pas que je critique, c'est si différent. Passer le périphérique, c'est plus les mêmes musiques, les mêmes tuniques. Sa mère, ses potes et ses votes catholiques. Je la vois moins souvent parce que madame, oui, part à la mer pour Pâques. Ses amis ont des grandes baraques. Saint-Briac, connais pas. Moi, ma ganache, ta pache et mon accent. Je sais, ça fait sourire ses amis bien pensants. Et pourtant, je l'attends souvent dans le vent. J'aimerais qu'elle redevienne un peu comme avant. Les ailes sont terribles, c'est Thomas Bio et son iPhone. Son terrier de Boston, moi la pluie me bastonne. Pendant que je galère des heures à l'interphone, mais y'a personne.
Elle habite Paris, elle a des converses
face blanche. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris. Elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change.
Madame est chic. Apéro Paris au bord de Seine. Madame se complique. La vie à être une bohème. Madame est chic. Américaine apparaît à H&M. C'est une hippie chic. Mais elle est où, la dame que j'aime? Elle habite Paris. Elle a des converses blanches. Je comprends rien de ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris. Elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Que j'aime, je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pour du cœur, rien ne change.
Édition spéciale présidentielle française. Moment historique, un rendez-vous à ne pas manquer. Et dans une heure, quoi, 14h, heure de Toronto, 20h, heure de France, nous aurons le résultat. Et oui, nous saurons l'heure de vérité pour la France. Les Françaises, les Français. Et oui, ce deuxième tour... Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affrontent ce dimanche au second tour de la présidentielle française. Et selon nos informations de nos médias partenaires, les mairies françaises se sont mobilisées afin de recruter des assesseurs. En effet, il n'y avait pas d'assesseurs dans beaucoup de mairies à travers la France. L'absence de deux grands partis de gouvernement, le Parti socialiste et les Républicains, éliminés au premier tour et qui comptent le plus de militants dans leur rang, bouleverse le paysage politique. Côté sécurité, on nous dit que plus de 50 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle sont déployés un peu partout en France, spécialement à Paris, pour assurer la sécurité des gens ce dimanche à l'occasion du second tour de cette élection présidentielle. L'attentat qui a coûté la vie à un policier le 20 avril dernier sur les Champs-Élysées, l'arrestation vendredi d'un homme radicalisé projetant probablement un attentat près d'une base militaire en Normandie, ont donné corps aux affirmations des autorités selon lesquelles la menace terroriste n'a jamais été aussi forte durant cette campagne présidentielle organisée pour la première fois sous le régime de l'état d'urgence. Et les résultats post-résultats seront également organisés sous haute surveillance ce soir. L'équipe d'Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'en cas de victoire, le candidat d'En Marche célébrera son succès sur l'esplanade du Louvre, tandis que les lieux où Marine Le Pen pourrait fêter sa victoire n'ont pas encore été divulgués. Et la campagne présidentielle française, qui s'achève dans 1h30, 2h, a été marquée par de très nombreuses manipulations en images, parfois des photos, parfois des vidéos visant des candidats ou tentant de diffuser de fausses informations, particulièrement sur les thématiques comme l'immigration ou la sécurité. Pourquoi ces images sont-elles des intox et surtout comment les repérer? Et depuis 2 mois, les observateurs de France 24 participent à CrossCheck, une plateforme collaborative entre une trentaine de médias français pour traiter les affirmations fausses, trompeuses ou prêtant à confusion qui circulent en ligne. Et je pense que maintenant nous pouvons aller en direct avec nos médias partenaires en direct à Paris pour suivre le déroulement de ce scrutin, mesdames, messieurs, deuxième tour de l'élection présidentielle française. À vous, Paris.
Est-ce que l'abstention a augmenté ou pas entre les deux tours? Est-ce que ces candidats, ces électeurs qui se sentent orphelins de leurs candidats, ont trouvé satisfaisante l'offre électorale? Est-ce qu'ils se sont portés sur l'un ou l'autre des candidats? Ou est-ce qu'ils ont préféré s'abstenir ou voter blanc ou nul? Et quand on aura le détail de cette participation, alors on comprendra bien ce qui a fait le résultat.
Et pourtant, tout au long de cette campagne électorale que vous avez disséquée avec nous, avec les thèmes, les domaines dans lesquels les Français voulaient s'exprimer, on avait senti une véritable envie, l'immigration, l'insécurité, le chômage, l'économie, qui étaient les thèmes principaux. Donc on avait des Français très intéressés par la campagne, qui s'en étaient appropriés les thèmes, mais qui, à ce deuxième tour, ont eu un effet de recul un peu.
J'allais dire intéressés par la campagne, et puis aussi conscients de l'importance de la fonction présidentielle. Et ça, c'est très atypique, c'est très particulier à la France. On sait qu'en France, on attend tout du président de la République. Mais peut-être que cette campagne a déçu, et qu'elle a peut-être déçu, notamment dans l'entre-deux-tours. C'est vrai que le débat, sans juger la performance de l'un ou de l'autre, a été jugé globalement décevant. Par ailleurs, sur l'offre électorale, on savait, c'était un sondage que Elab avait réalisé au lendemain du premier tour pour BFM TV, il y avait moins d'un Français sur trois qui étaient satisfaits de cette offre électorale. Et puis, dans le chiffre de l'abstention qui est élevé, on le sait, hein, c'est la deuxième plus mauvaise participation sous la Ve République, il y a incontestablement aussi un vote de crise qui s'exprime, un vote d'insatisfaction vis-à-vis des politiques conduites depuis 10 ans dans les deux derniers quinquennats.
Vote de crise, vote d'insatisfaction, d'où les premiers pas, les premiers jours du président qui seront importants parce qu'à ce moment-là, il enverra un message fort aux Français qui ont voté pour lui ou pas.
Bien sûr, il y a d'abord la solennité du moment, il y a l'importance de cet élan qui sera donné pour le président ou la présidente, cet élan qui sera très important. Vous savez, on dit souvent qu'il y a un état de grâce, cet état de grâce, il naît aussi un peu des premiers jours de l'exercice du pouvoir. Et puis ce soir, c'est un peu le premier meeting de la campagne des législatives. Ce soir, on va aussi voir quels sont les signes qui seront annoncés par le vainqueur de ce soir pour donner justement de l'impulsion à ces candidats. On l'a dit, que ce soit la victoire d'Emmanuel Macron, que ce soit la victoire de Marine Le Pen, ils ne sont quasiment pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Bernard Sananès, que l'on retrouvera donc tout au long de la soirée, c'est sur vous que l'on compte tout à l'heure à 20h, Bernard, pour l'estimation, pour celui ou celle qui sera président de la République, bien sûr, rendez-vous à 20h.
À 20h, à partir des premiers bulletins dépouillés, dès que les bureaux auront fermé à 19h.
Et pour prendre le pouls, justement, l'atmosphère dans chaque camp, nous allons du côté du Chalet du Lac retrouver Nicolas de la Barrière pour BFM TV. Chalet du Lac, c'est là que Marine Le Pen et ses partisans passeront la soirée à partir de 20h, peut-être même avant, ils vont arriver d'ailleurs, Nicolas.
Oui, exactement. La soirée électorale est en train de commencer tout doucement. Le DPS, le service de sécurité du Front National, vient de faire rentrer il y a un quart d'heure environ les premiers invités et les journalistes qui le souhaitent. Marine Le Pen, elle, est attendue un petit peu avant 20h. Elle passera donc cette soirée ici en bordure du Bois de Vincennes. En cas de victoire comme en cas de défaite, cette salle qui dispose d'un restaurant, d'une véranda, de salons, de terrasses, a une capacité de 1400 invités. On imagine donc bien sûr qu'en cas de victoire, la fête déborderait largement autour du bâtiment dans le Bois de Vincennes. Nous sommes ici juste à côté de Saint-Mandé, une commune cossue de la banlieue est de Paris. Le dispositif de sécurité est déjà impressionnant avec des dizaines de fourgons de policiers stationnés dans les rues aux alentours, des barrières un petit peu partout pour aiguiller les gens qui arrivent et puis le DPS, donc le service de sécurité du Front National qui filtre les enterrés, qui s'occupe des palpations, de la fouille du matériel. Il a donc commencé à faire entrer les premiers invités. On attend maintenant l'arrivée, bien sûr, de Marine Le Pen. Mais quoi qu'il arrive, cette soirée se finira en privé puisque les journalistes sont censés quitter les lieux à 22h.
Donc le Chalet du Lac, et nous allons retourner en plein cœur de Paris dans un instant. Chalet du Lac, donc, pour les partisans de Marine Le Pen. Et nous allons retrouver cette fois-ci Jérémy Trottin, qui est au quartier général d'Emmanuel Macron. On a vu l'image de l'épouse, d'ailleurs, Jérémy, d'Emmanuel Macron, qui est en train d'arriver sur place.
Oui, en effet. Et puis, il y a pas mal de passages ici devant ce quartier général de campagne d'Emmanuel Macron. On vient de voir également le sénateur républicain Jean-Baptiste Lemoyne ou encore la chiracienne Anne-Marie Idrac. Ils viennent sans doute passer une tête, comme on dit, pour aller voir Emmanuel Macron qui est ici présent depuis maintenant plus de 2 heures. Et c'est d'ici qu'il travaille seul sur la préparation de son discours, de ses différents discours et de ses différentes versions également. Bien sûr, une version en cas de victoire, une autre en cas de défaite. Et c'est également ici de son quartier général de campagne qu'il suivra à 20h pétante les résultats de cette présidentielle avec à ses côtés un certain nombre de proches collaborateurs mais aussi des élus comme François Bayrou, Gérard Collomb ou encore Christophe Castaner mais aussi ses proches, son père, sa mère, son frère ou encore Brigitte Macron bien sûr et ses enfants. Deux discours seront donc prononcés par Emmanuel Macron à l'occasion de cette soirée. Le premier sera une déclaration solennelle ici au quartier général vers 20h45, une déclaration sans lyrisme et politique nous indique ton. Deuxième discours ensuite, cette fois sur l'esplanade du Louvre, un discours plutôt basé sur l'émotion.
Jérémy Trottin qui est au quartier général d'Emmanuel Macron en direct pour BFM TV. La France vote, continue de voter. Nous allons en Bretagne retrouver Joanne Portal en direct pour BFM TV. Nous sommes précisément dans le département du Morbihan. La France vote à Guidel, Joanne Portal, avec encore du monde dans les bureaux de vote ou c'est plutôt une fin d'après-midi, voire un début de soirée tranquille. Et vous devez être à un peu moins de 3/4 d'heure de la fermeture, Joanne.
Oui, exactement, 3/4 d'heure avant la fermeture du bureau de vote. Mais je peux vous dire qu'ici, dans ce gymnase où sont réunis les 10 bureaux de vote de la commune de Guidel, eh bien, il y a encore une quinzaine d'électeurs qui viennent voter. Et ici, eh bien, à la mi-journée, on a pu vraiment observer, à part à la pause déjeuner, un flot incessant d'électeurs qui se sont beaucoup mobilisés, surtout dans la matinée, puis après en milieu d'après-midi. Et ce matin, avant 8h, avant l'horaire d'ouverture des bureaux de vote, il y avait déjà une trentaine de citoyens eh bien, qui patientaient. Et parmi les électeurs les plus matinaux, eh bien, un certain Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense et soutien de poids d'Emmanuel Macron, qui lui a voté à 8h30 exactement. Alors, quant à la participation dans ces bureaux ici de Guidel qui compte 9000 électeurs inscrits, eh bien, comme au premier tour, on s'est beaucoup mobilisé avec un taux de participation à 18h qui frôle les 79% contre 80% au premier tour il y a 15 jours à l'échelle du département du Morbihan. La baisse du taux de participation est un petit peu plus nette. On est à 70% de taux de participation à 18h contre 73% à la même heure au premier tour. Il reste donc maintenant bien 3/4 d'heure aux électeurs qui veulent voter ici à Guidel et c'est le même horaire dans la plupart des communes du Morbihan.
Joanne Portal, donc Guidel, Morbihan, en direct pour BFM TV du Morbihan du côté de la Haute-Marne. Saint-Dizier, nous y retrouvons Virginie Saint-Cilly. Pour, comme on l'a fait à l'instant avec Joanne Portal, Virginie, mesurer ou prendre le pouls de cette France qui vote ou qui a peut-être du mal à se déplacer et à voter, y compris à Saint-Dizier.
Écoutez, les habitants continuent à se déplacer puisque 70% de participation dans ce bureau à Saint-Dizier. Et d'ailleurs, 70% de participation en Haute-Marne à 17h. Les habitants donc continuent à venir. Ils se mobilisent depuis ce matin. On les a vus se rendre aux urnes ici à Saint-Dizier dans les 14 bureaux de vote de la ville. On les a également vus à Bayard-sur-Marne, petit village d'un peu plus de 1000 habitants où nous nous sommes rendus avant de revenir ici. Alors il faut savoir qu'au premier tour, ils étaient tout de même plus de 70% à participer au scrutin dans ce bureau de vote de Saint-Dizier. Aujourd'hui, c'est bien parti donc pour atteindre à peu près le même taux de participation selon la présidente. Le 23 avril dernier, c'est la candidate du Front National qui est arrivée largement en tête ici à Saint-Dizier avec plus de 35% des voix contre 12 pour Emmanuel Macron. Elle s'est d'ailleurs nettement imposée sur l'ensemble du département de la Haute-Marne puisqu'elle a conquis 33% des citoyens. Emmanuel Macron, lui, a obtenu 18% des suffrages.
Virginie Saint-Cilly à Saint-Dizier en Haute-Marne en direct pour BFM TV. Cette France qui vote ou qui a peut-être un petit peu de mal à se déplacer, on en a parlé de la participation il y a un instant avec Bernard Sananès. On va continuer bien sûr d'effectuer ce tour de France, de prendre le pouls de, je vous disais, de cette France dans les bureaux de vote, savoir précisément où on en est avant de revenir vers nos éditorialistes. Quel est notre prochain point de déplacement? Je me tourne vers vous, Gwenaëlle Vandrastin, qui est du côté de Lyon pour BFM TV. Ah, par rapport à vos deux petits camarades, vous avez du monde derrière vous, mon cher Gwenaëlle.
Oui, il y a un petit peu de monde, tout à fait, aux alentours de 18h30, ici dans ce bureau de vote du 4e arrondissement de Lyon, sur le plateau de la Croix-Rousse. C'est un flot continu d'électeurs là qui arrivent depuis quelques minutes. Il faut savoir qu'ici, les bureaux de vote à Lyon intramuros ferment à 20h et non à 19h, comme dans la plupart des autres communes. Ici, nous sommes dans une grande ville. On va donc jusqu'au bout de cette élection et de ce deuxième tour. Et pourtant, il ne faut pas se fier à tous ces électeurs que vous voyez derrière moi, Alain, puisque les chiffres de la participation à 17h sont plutôt en baisse et en très forte baisse dans l'agglomération lyonnaise, dans le département du Rhône, avec environ moins 5 points de participation par rapport au second tour de 2012. Et puis plus on s'éloigne de cette agglomération lyonnaise et plus les chiffres de la participation à 17h sont mauvais ou en tout cas en baisse par rapport à 2012. Les plus mauvais élèves, ce sont les départements de l'Isère et de la Savoie, avec respectivement moins 11 points et moins 9 points de participation par rapport au second tour de 2012. Et pourtant, je vous le disais, on a vu toute la journée avec Thomas Coudert ici dans le 4e arrondissement, mais également dans le 6e arrondissement ce matin, un flot continu d'électeurs qui venaient déposer leur petit bulletin dans l'urne. Il faut savoir qu'ici, dans le 4e arrondissement de Lyon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête, alors que plus globalement, sur la ville de Lyon, c'est Emmanuel Macron, fief macroniste par excellence, avec son plus fidèle soutien, Gérard Collomb, qui était arrivé en tête. À voir si cette baisse de participation va se traduire dans les urnes. À 20h, on aura les chiffres plus précis très tard dans la soirée, puisque comme les bureaux ferment très tard ici, eh bien les chiffres arriveront certainement après minuit ici à Lyon et dans l'agglomération.
Donc Gwenaël Van Dresten, la cité des Gaules pour BFM TV. Ça vous inquiète, ce manque de participation? C'est un mauvais signe pour notre démocratie, Laurent Neumann?
Oui, alors en même temps, cette présidentielle, encore une fois, elle est incomparable, donc c'est difficile de la comparer. Même à 2002, on a vu que l'entre-deux-tours de cette présidentielle-là n'était pas le même du tout que celui de 2002. En même temps, il y a toute une série d'électeurs dont, qui ont perdu leur candidat à l'issue du premier tour et qui ne se sont pas retrouvés sans doute dans le casting de ce second tour. Ça peut être une explication. L'autre explication, c'est peut-être aussi sur la tonalité de la campagne. Peut-être que cette fin de campagne un peu poussive, sans doute un peu agressive, a sans doute rebuté un certain nombre de gens. En tout cas, encore une fois, il ne faut pas comparer ces chiffres-là à 2002 parce que cette campagne, encore une fois, elle ne ressemble à aucune autre campagne précédente.
Et on l'a vu, cette fin de campagne, bien sûr, sur BFM TV, chaîne présidentielle, avec à 20h l'estimation. Et nous saurons...
30 years strong. Help keep the sound of your city alive with our spring membership drive. May 8th to the 14th. Go to ciut.fm to donate early or find out how you can get involved. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Édition spéciale présidentielle française 2017 sur CUT 89,5 FM. Et en collaboration avec Radio France Internationale, France 24 et BMF TV France, Paris, France. Et à tous ceux et celles qui aimeraient voir en direct les résultats des présidentielles, et Francine Watkins, notre amie et collaboratrice, conseillère, consulaire et vice-présidente du conseil consulaire pour la province de l'Ontario et la province de Manitoba au Canada, vous donne rendez-vous dès 13h aujourd'hui pour suivre, écouter, regarder les résultats des présidentielles aujourd'hui. Et c'est au Madison Pub, 14 Madison Avenue, pas très loin de Bloor et rue Spadina.
Et notre soirée présidentielle est lancée maintenant sur BFM TV. À 20h, nous saurons qui succédera à François Hollande, qui sera le 8e président de la 5e République. 8e président ou 8e présidente. Un chiffre, une indication, l'estimation de la participation à 20h selon l'Institut de sondage ELAB, notre partenaire. Nous sommes à 74%, une participation donc en forte baisse. On va prendre la température, le pouls au quartier général de l'un des participant à ce second tour. Il s'agit de Marine Le Pen et c'est Agathe Lambré qui est au quartier général de la candidate soutenue par le Front National ce soir. En attendant que Marine Le Pen quitte ce QG et aille du côté du Chalet du Lac, Agathe.
Eh oui, la pression monte ici. De nombreux journalistes se sont rassemblés. Ils sont véritablement suspendus à la sortie de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui ne devrait plus tarder à quitter son QG. Il y a des motards notamment qui attendent la candidate pour la suivre dans Paris. Des habitants du quartier, des touristes aussi, des touristes japonais. Notamment Marine Le Pen qui réunissait ici son comité stratégique pour une ultime réunion autour de la table. David Rachin, notamment son directeur de campagne, ou Nicolas Bell, secrétaire général du parti. Un dernier point pour peaufiner le discours qu'elle prononcera ce soir devant ses militants, pour réfléchir aussi à l'après. Quelle stratégie adopter après le second tour? Quelle stratégie adopter en vue des législatives? Voilà, Marine Le Pen qui ne devrait pas tarder à sortir. Je vous le disais, les journalistes sont véritablement suspendus à cette porte du QG qui s'ouvre régulièrement ici. Marine Le Pen qui devrait ensuite prendre la direction de l'Est parisien, direction le Chalet du Lac, près du Bois de Vincennes. C'est là qu'elle organise sa soirée électorale. C'est de là qu'elle prononcera ses premiers mots une fois les résultats officiels publiés. Marine Le Pen qui s'exprimera devant ses militants, devant plus de 500 journalistes accrédités aussi, mais une quinzaine environ de journalistes ont été refusés. Certains médias comme Libération ou les Inroc notamment ont décidé par solidarité de boycotter cette soirée.
Agathe Lambré qui est donc au quartier général de Marine Le Pen pour BFM TV. Et Agathe nous le disait, Marine Le Pen va se déplacer du côté de l'Est parisien au Chalet du Lac près du Bois de Vincennes. En revanche, Emmanuel Macron lui sera bel et bien en plein cœur de Paris, à l'Esplanade du Louvre où nous retrouvons Mathieu Coache en direct pour BFM TV. Tout est prêt ou quasiment pour accueillir le candidat En Marche ce soir, qu'il soit président de la République ou pas, il sera sur place.
Oui, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron a décidé de venir ici, sur cette esplanade du Louvre, où effectivement on termine les derniers préparatifs. Il y a eu les tests son tout à l'heure, tests d'écran géant aussi qui serviront à suivre les résultats dès 20h, puisque le public va pouvoir entrer sur cette esplanade à partir de 19h. On attend environ 10 000 personnes sur ce périmètre sécurisé et restreint autour de moi, et peut-être beaucoup plus de monde dans le jardin des Tuileries qui se trouve de l'autre côté. Alors, quand je vous parle de sécurité, évidemment, les choses sont prises très au sérieux ici. Plusieurs fouilles successives pour pouvoir entrer ici et approcher cette scène où Emmanuel Macron a prévu de parler tout à l'heure. Prise de parole qui est prévue, quel que soit le résultat, donc vers 21h30, avec très certainement un discours qui sera court.
Mathieu Coache, pardon de vous interrompre, mais priorité au direct, au départ de Marine Le Pen de son QG parisien en direction donc de l'Est et du Chalet du Lac. Agathe Lambré, vous êtes dans la cohue pour BFM TV. Je ne sais pas si Agathe nous entend.
Exactement, Marine. Si, je vous entends. Marine Le Pen qui vient de sortir et de s'arrêter pour prendre la pause devant des badauds qui voulaient la prendre en photo, mais elle ne s'est pas attardée, elle s'est engouffrée dans sa voiture. Voilà, Marine Le Pen que de nombreux journalistes attendaient depuis 17h maintenant, qui s'apprête à être suivie par des motards qui vont la suivre direction l'Est parisien, là où elle organise sa soirée.
Et merci à tous nos amis, camarades, confrères de BMF TV à Paris. Et je vous rappelle, c'est au Louvre qu'Emmanuel Macron célébrera ce soir son éventuelle victoire. Emmanuel Macron qui cherche à tout prix à effacer les mémoires de sa soirée du dimanche 23 avril à la brasserie parisienne La Rotonde. Et donc pas plus beaucoup de possibilités. L'esplanade du Louvre a l'avantage d'être un lieu complètement neuf, consensuel, neutre et pas bling-bling, comme dirait l'autre. C'est aussi un lieu patrimonial, chargé d'histoire, en plein centre de Paris, mais pas chargé de politique. Et en plus, tout le monde connaît le musée du Louvre, les scolaires, les Français, les étrangers, avec la pyramide du Louvre pour arrière-plan. On pourrait éventuellement reprocher à Emmanuel Macron d'aller sur les pas de François Mitterrand, et encore maintenant Mitterrand, qui appartient à l'histoire. Alors, dans un instant, nous allons passer à la chronique de Laurent Gérard, en compagnie d'Emmanuel Macron. Cela s'est passé pas tellement longtemps, hein. Et nous allons aussi entendre François Bayrou, Brigitte Macron, François Hollande, le premier président François Hollande, qui va tirer sa révérence dans quelques jours, et l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. À vous, cher Laurent Gérard, au micro de la radio RTL.
Matin. Les petits déjeuners présidentiels
avec Yves Calvi et Emmanuel Macron.
8h48, sous le regard et l'oreille d'Emmanuel Macron, je peux dire bonjour Laurent Gérard.
Bonjour mon chéri.
Bonjour mademoiselle Jade.
Bonjour monsieur Calvi, bonjour tout le monde et bonjour monsieur Bayrou.
Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi et bonjour l'ambiance.
C'est exactement ça. Vous souhaitez participer à cette matinale spéciale avec Emmanuel Macron ?
Absolument. Mmh. Je tenais à être présent aux côtés de mon Emmanuel Ounet, qui n'a pas l'habitude des campagnes électorales, pour le protéger des coups bas qui viennent de haut. D'autant que je suis soulagé, car j'ai retrouvé mon téléphone portable.
Ah, c'est vrai que les Français ont eu très peur pour vous.
Oui, surtout que dedans, j'avais tous mes contacts.
Eh oui.
Les 8 contacts, dont Marielle de Sarnez.
Très bien, merci.
Mauricette Goutzebard.
Oui, oui. Alors, c'est vraiment gentil de votre part d'être là d'abord. Vous pensez que vous pouvez aider Emmanuel Macron ?
Bien sûr. Car ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Un grand fauve solitaire comme moi, qui a déjà 4 élections présidentielles à son actif, connaît la loi de la jungle. C'est pourquoi il sera mon Mowgli et je serai son Balou.
Très bien. Et en tant qu'homme politique d'expérience, vous lui conseillez quoi, par exemple ?
Pour bien montrer son indépendance vis-à-vis de la droite et de la gauche, je lui conseille de perdre dès le premier tour.
Bon. Merci François Bayrou.
De rien, voter pour moi.
À 7 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la pression de la campagne électorale se fait sentir jusque dans la vie quotidienne des candidats. Voyons comment cela se passe chez Emmanuel et Brigitte Macron.
Emmanuel, tu n'as pas vu le Paris Match ? Ah non, Brigitte, j'ai pas vu, c'est lequel de Paris Match ? C'est le numéro, on n'est pas en couverture, c'est pas facile à trouver. Oh, flûte alors, qu'est-ce que c'est encore ? Allô, si c'est pour une véranda, Stéphane Bern, on en a déjà. Allô, bonjour, c'est François Hollande. Je pourrais parler à Emmanuel ? Oh, je vous l'appelle, mais ne lui faites pas trop perdre de temps, il révise son programme. Emmanuel, c'est pour toi, c'est monsieur Hollande. Oh, qu'est-ce qu'il me veut encore le gros teinté, il est collant. Chaque fois qu'il me voit, il me fait la bise. Allô, c'est toi Emmanuel ? C'est moi, président François Hollande, ton père en politique. Ah, c'est toi, François. Ça va, ça boum. Tu fais tes cartons. Et dis, tu pourras me laisser ton scooter et ton coiffeur à 10 000 boules. T'en as plus besoin maintenant. Je t'appelle parce que je t'ai vu présenter ton programme. C'est très bien. On dirait du Hollande. Mais as-tu pensé aux hommes et aux femmes qui vont l'appliquer, parce que moi, Premier ministre, je serai toujours là pour t'aider. Ah ouais, mais non, comme Premier ministre, ça sera mon pote Gégé de Lyon, il est trop cool. Si tu veux, je te prendrai comme ministre de la Culture, il n'y a rien à foutre, t'as qu'à aller au spectacle et dormir.
Pour cette matinale spéciale, nous recevons le maire de Lyon, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour à tous. Bonjour les Parigots. Et salut Emmanuel. Tu vas bien ? Je t'ai vu sur Télé Lyon Métropole. T'étais super. Hein.
Vous avez un conseil à donner à Emmanuel Macron, Gérard Collomb ?
Ben oui, il devrait gérer la France comme une grande ville super, comme Lyon. Par exemple, distribuer du tablier de sapeur dans les écoles et faire une fête des Lumières. Mm-hmm. Et au lieu de ce petit déjeuner fadasse, comme ce matin, faire un vrai machin lyonnais, saucisson chaud, gratin d'andouillette. Et prendre un premier ministre, un premier ministre super.
Oui, lyonnais, je suppose.
Comment vous avez deviné?
Bonjour, c'est Jacques.
Ah tiens, bonjour Jacques Lang. Mais vous n'étiez pas prévu dans notre tour de table?
Figurez-vous qu'en faisant mon footing matinal, j'ai eu de la lumière à RTL et je suis entré. Imaginez ma surprise en découvrant que vous receviez Emmanuel Macron. Quel bel homme. Emmanuel comme un soleil. Il mérite un grand studio, il mérite un grand destin, comme il mérite aussi d'ailleurs un grand ministre de la culture.
Ah oui, vous semblez enthousiaste vis-à-vis de M. Macron, alors qu'il y a quelques mois, vous fustigiez sa trahison.
Mais j'étais jeune et fou.
Ah, voilà.
Aveuglé par mon inexpérience, je ne voyais pas à quel point, bien coaché par son épouse Brigitte, quelle belle meuf, Emmanuel avait tout pour réussir, je le dis sans flagornerie aucune, tout pour réussir.
Oui, ça ressemble un peu à un ralliement, Jacques Lang.
Et alors? Comme dirait l'autre, je ne vais quand même pas moisir encore 5 ans à l'Institut du Monde Arabe. Du courage, merde.
Pour moi, quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
Vous apprenez à travailler avec René Daniel Dubois, le dramaturge, mais vous l'enviez. Un carnet et un crayon lui suffisent. Il vous faut donc lui expliquer à l'occasion que le cinéma documentaire impose des contraintes de temps, de lumière, de déplacement, qu'il vous faut dans le métier être patient comme à la chasse. La réalité ne va pas se plier à votre bon vouloir pour satisfaire votre histoire.
Ok, l'essentiel à comprendre, le contexte, c'est que le Canada, donc y compris la Nouvelle-France, passe aux mains des Britanniques pendant ce qu'on a appelé la guerre de 7 ans, parce qu'elle va de 1756 à 1763. Pendant cette guerre-là, celui qui dirige les destinées militaires de la Grande-Bretagne, c'est peut-être le plus grand génie politique et militaire que l'Angleterre ait connu au 18e siècle, pendant le siècle des Lumières, qui s'appelle William Pitt l'Ancien. William Pitt l'Ancien pense qu'il faut contenir l'expansionnisme des Français, mais pas en attaquant la France en Europe, en l'attaquant dans les colonies, c'est-à-dire dans les Amériques et puis aux Indes. Et c'est ça qui explique l'énorme puissance des moyens que Pitt lui-même va confier à Wolfe pour conquérir Québec, et qui est la capitale de la Nouvelle-France, donc toute la Nouvelle-France.
Canada 150, 150 ans d'histoire, un jour à la fois.
Bye.
Vous écoutez Potpourri Show, émission spéciale, édition spéciale présidentielle sur CUT 89,5 FM, Toronto. Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Este Terre d'Alliance.
Sur France,
France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Héron.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Finalement comme une fan zone hein, digne de l'Euro 2016 avec de rares points d'entrée et d'importants contrôles de sécurité. Il y a notamment des fouilles par les équipes d'En Marche et des fouilles réalisées également par les autorités, par la préfecture de police. Bref, double contrôle des chiens, des mineurs aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas d'explosifs qui rentrent sur la zone. Rappelons également qu'il y a eu une alerte en début d'après-midi. Pendant environ une heure, la zone a été évacuée, le temps de faire des vérifications. C'était une fausse alerte et tout est revenu à la normale aux alentours de 14h30. Vous voyez derrière moi, la zone est désormais évacuée. Seuls sont présents ceux qui sont accrédités, notamment des journalistes, 2200 journalistes accrédités, dont 40% viennent de l'étranger, de très très nombreux pays. Le monde entier a le regard clairement tourné vers la pyramide du Louvre ce soir, où on attend effectivement Emmanuel Macron, qui pourrait passer ici aux alentours de 21h-21h30.
Jérémy Brossard, donc, qui est sur l'esplanade des Tuileries, à côté de la pyramide du Louvre, où se retrouvera une partie du public ce soir. Il y est en direct pour BFM TV. Donc, on parlait du contexte de cette campagne électorale. Le contexte terroriste, on l'a évoqué. Mais il y a un autre contexte, hein, c'est le contexte de tension extrême, Thierry Arnaud. Via les réseaux sociaux, via les débats, où on a senti que l'on exacerbait aussi les craintes et, on peut dire le mot aussi, les haines, Thierry.
Oui, tension, violence, brutalité, ça a été effectivement parfaitement symbolisé de ce point de vue à l'occasion du débat de mercredi dernier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dont le ton était du jamais vu pour un débat entre deux candidats à l'élection présidentielle à quelques jours du deuxième tour pour ces deux finalistes. Tension sur les réseaux sociaux qui sera effectivement l'une des marques de cette campagne présidentielle de 2017. Tension sur le terrain également. On a vu les deux candidats dans les derniers jours de la campagne, souvenez-vous, pris à partie, un petit peu chahutés, mis en cause, interpellés et avec des scènes un petit peu difficiles pour l'une comme pour l'autre. Ça restera comme un des marqueurs de cette campagne présidentielle de 2017. Et c'est effectivement une façon de nous en dire long, Alain, sans aucun doute, sur l'état de tension qui règne par ailleurs dans le pays. L'une des clés de cette élection, c'est la colère qu'ont exprimé les Français. Regardez ce qui s'est passé au premier tour. Hein. On a mis dehors deux présidents de la République, trois premiers ministres. On a ramené à 25% les deux partis qui nous gouvernaient depuis 50 ans. C'est donc une grande violence, une grande brutalité dans ce rejet qu'ont exprimé les Français et qui continuent d'exprimer dans des proportions variables, mais assez nettes tout de même à l'occasion de cet entre-deux tours.
Laurent Neumann.
Oui, le casting de ce deuxième tour, d'ailleurs, prouve qu'on est politiquement rentré dans une autre histoire, quelque chose de totalement inédit. Et Thierry disait à l'instant l'importance des réseaux sociaux. On a peut-être vécu, en réalité, en France, je dis bien en France, c'était déjà le cas aux États-Unis avant, mais en France, la première e-campagne, où toute une partie de la campagne s'est passée sur les réseaux sociaux, avec un degré de violence dans les mots, dans les images, les rumeurs, les insinuations, qui ont d'une certaine
et
manière...
Et ça a continué ce week-end. Hein.
Et ça a continué jusqu'à la veille de ce deuxième tour, qui ont imprimé en réalité l'ensemble, la tonalité de la campagne, l'image de la campagne. Et c'est peut-être aussi une des explications de cette désaffection. On parlait d'un taux de participation de l'ordre de 74%. On a parlé évidemment des consignes de vote données par un certain nombre d'états-majors politiques, hein, des candidats battus au premier tour. Mais il y a aussi l'image de cette campagne qui a peut-être, au fond, lassé un certain nombre de gens. En tout cas, on n'avait jamais atteint ce degré-là de violence dans l'affrontement des idées et des personnalités. Et oui, Thierry a raison, le rôle des réseaux sociaux, le rôle d'Internet, la manière dont on s'est servi. Regardez Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ils ont créé leur mouvement à partir d'Internet. Il s'est passé un nombre de choses, évidemment sur les chaînes d'information continue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça restera comme une des marques de fabrique de cette campagne présidentielle. Oui.
On a beaucoup parlé de la disparition du clivage gauche-droite ou de l'extinction de ce clivage. Et ce qu'on a vécu dans cette campagne, c'est l'émergence de nouveaux clivages et même parfois des fractures. On a vu des fractures géographiques, des fractures sociales, des fractures politiques nouvelles. On les a particulièrement vues dans les résultats du premier tour. On les a beaucoup vues dans cette campagne aussi. Beaucoup d'antagonisme, beaucoup de violence. Laurent le disait, des propos inhabituellement durs, abrupts, parfois injurieux entre les équipes des candidats. Alors bien sûr, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde, et c'est amplifié par les réseaux sociaux, mais on voit que c'est aussi une nouvelle façon de faire des campagnes électorales, de faire de la politique tout court, et probablement que dans cette élection, il va y avoir les bases d'un système politique nouveau, et on verra notamment dans la capacité ou dans l'incapacité des deux finalistes de ce deuxième tour à adhérer, à agréger pardon, ouais. À eux de nouvelles voix, à récupérer des reports de voix des électeurs pardon, de ceux qui ont été éliminés au premier tour, on verra dans cette capacité ou dans cette incapacité la réponse à cette question, c'est-à-dire est-ce que ces nouveaux clivages-là peuvent être surmontés par la fluidité de l'électorat, autrement dit, des équipes qui s'affrontent très sévèrement et des électeurs qui peut-être s'isolent chacun dans leur couloir, dans leur catégorie ou alors finissent néanmoins face à des circonstances exceptionnelles, finissent par se déplacer néanmoins et aller trouver de nouveaux candidats qui répondent à leurs questions. Tout ça, c'est un point d'interrogation énorme et c'est un facteur de plus de la recomposition politique à laquelle nous assistons.
On a assisté à la décomposition dans une première phase. Je vous rappelle les primaires. Pour nous, vous savez, ce soir, c'est évidemment la fin de l'élection présidentielle. Mais il y a eu deux primaires, il y a eu de nombreux débats à la télévision. Faut le souligner et le rappeler, la télévision a joué son rôle, a joué un rôle très important. Les débats ont joué avant le premier tour, ça n'était jamais arrivé. La décomposition a été longue, elle a été violente, elle a effectivement mis au tapis, comme disait Thierry, un certain nombre de personnalités. La recomposition a commencé le soir du premier tour avec cette deux nouvelles offres que sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et elle va se poursuivre ce soir d'une certaine façon. Il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente pour la France. Mais ce ne sera qu'une étape de cette recomposition. Elle va se poursuivre pour les élections législatives. Il y a tellement d'interrogations. Est-ce qu'avec cette nouvelle offre politique, c'est la suite de la Ve République, c'est-à-dire une forme d'automatisme dans la majorité qui suit l'élection présidentielle? Ou au contraire, est-ce que ce seront des coalitions? Est-ce que ce seront de nouvelles configurations qui vont régner? Et du coup, peut-être une autre forme de gouvernement. Donc il y a énormément de questions. Et on a vécu évidemment des moments inédits, dont la violence n'a pas épargné, au passage, les journalistes, je tiens à le rappeler.
On va retrouver Mathieu Coache à l'Esplanade du Louvre pour BFM TV, parce que l'Esplanade du Louvre, je vous le disais, c'est l'un des points d'attraction ce soir. À partir de 20h, qu'il gagne ou qu'il perde, Emmanuel Macron sera en plein cœur de Paris, à l'endroit le plus visité de la capitale avec la Tour Eiffel. C'est le Louvre, c'est la pyramide. Ultra surveillé. Souvenons-nous aussi de la tentative d'attentat qu'il y a eu quelques semaines avec un homme qui avait foncé sur des soldats et qui a été neutralisé, qui a été mortellement neutralisé à cette époque. Et Mathieu Coache, vous êtes sur place pour BFM TV parce qu'on a un dispositif policier important et toute une logistique aussi qui est prête et qui attend Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive ce soir, au candidat d'En Marche.
Et oui, madame, monsieur, bien le bonjour. Nous revenons à Toronto et selon le dernier sondage des comptes, selon une source du ministère de l'Intérieur français qui agrège les résultats de plusieurs instituts de sondage et d'enquête d'opinion, le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, je dis bien Emmanuel Macron, est nettement en tête. Il obtiendrait 62,5% des votes. Présidentielle française, Emmanuel Macron nettement en tête à 62,5%, mais c'est à confirmer quand même d'ici moins d'une heure maintenant. Les bureaux de vote, je vous rappelle, vont fermer à 20h, donc 14h heure de Toronto, 20h heure de Paris, mais dans beaucoup d'endroits, dès 19h, les bureaux de vote se ferment. Et selon les dernières nouvelles, Emmanuel Macron est nettement en tête à 62,5%. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de pronostics sur
le taux de participation. On nous dit que ça ne va pas dépasser les 80%, malheureusement. Et beaucoup aussi de pronostics sur le Premier ministre de M. Macron, si jamais il est élu ce soir. Le portrait en ombre chinoise. On a essayé de poser des questions à plusieurs reprises à M. Macron, mais aussi à son entourage. Pas moyen pour eux de nous dévoiler ses intentions. Emmanuel Macron donne toutefois quelques indices. Ce Premier ministre sera à l'image des engagements que j'ai pris. C'est quelqu'un qui aura une expérience dans le camp politique ou le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental. Et donc, c'est à suivre. Madame, Messieurs, ce n'est pas Ségolène Royal, ce n'est pas Nicole Notta, l'ancienne leader de la CFDF et l'eurodéputée, ex-Modem. Ce n'est pas non plus Sylvie Goulard, car elle n'a pas l'expérience, nous dit-on, et non plus Jean-Yves Le Drian ou Xavier Bertrand, non. Alors, c'est à suivre, peut-être on le saura d'ici quelques jours. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission spéciale aujourd'hui. Je remercie DJ Devera d'avoir été là, RFI Magazine, le Journal Express de Toronto, Laurent Gérard et l'équipe de RTL et bien sûr BFM TV pour ces retransmissions en direct. Ici Eric Kader, je tiens ma révérence et je vous donne rendez-vous, si cela vous intéresse, à Madison Pub, 14 Madison Avenue, pas très loin de Bloor et Spadina, pour regarder les résultats des présidentielles avec la conseillère consulaire et vice-présidente du conseil consulaire de l'Ontario, du Manitoba, Francine Watkins, et ses amis français et non français, les amis des Français. Allez, je vous dis bon dimanche, que le meilleur gagne, à dimanche prochain.
KCIUT 89.5 FM, the station that takes you around the world on our travel show, Fly, with Melissa Rodway. Saturday mornings at 7.
From backpacking to luxury, from the beach to the mountains, from gadgets to books, it encourages you to get off the couch and into the